Bonjour et bienvenue dans La Terre à Boire. Ici Alessandra, super bien entourée par la fine équipe de La Terre à Boire. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Et bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Est-ce que tout le monde est en forme?
Oh, au taquet.
Au taquet.
On pète le feu.
Valérie, ouais. Patrice aussi.
Ouais, moi je suis en forme. J'ai cru comprendre qu'il y avait des petits résidus de virus là, qui traînaient chez tout à chacun. Mais tout le monde est venu, tout le monde est présent. Donc,
tout le monde est présent. On embrasse Romain qui n'est pas là. Est-ce que vous êtes prêts à parler du futur ou du turfu, comme disent les jeunes?
Grave. Tout à fait.
Grave.
Ouais, grave. Alors,
de ouf.
Voilà, on a des mots de plus en plus sympatoches depuis mon arrivée.
Faudra
se poser des questions. Oh là, wow, j'adore. C'est carré. Donc aujourd'hui, rencontre avec une personnalité du vin qui fait de plus en plus parler d'elle à travers son passionnant Média Vin, un journal papier. D'ailleurs, on peut saluer ce choix. Dépliant nommé Vino Futur. Nous accueillons dans un instant la journaliste, mais pas que, Julie Reux. Et vous l'aurez compris, ce qui anime Julie à travers Vino Futur, c'est le vin de demain. Et ce qui anime La Terre à Boire ce soir, c'est Julie. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va très très bien. Voilà, merci de me recevoir.
Bon, on est ravis. Julie, on va faire un petit retour vers le futur de tes aventures. Est-ce que tu es prête?
Oui, j'ai un petit peu peur là.
Tout va bien se passer. Alors, actuellement, tu es basée à Nantes et tu es journaliste de formation, notamment journaliste d'investigation. Assez tôt, tu t'intéresses au vin et à l'agriculture, à l'environnement également. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tout cela t'est venu?
Alors déjà, je ne suis pas basée à Nantes exactement. Je suis basée à Oudon. Désolée de te corriger d'anglais, mais voilà, j'habite pas dans une ville, j'habite à la campagne. C'est pas un détail, voilà, pour moi en tout cas, ça en est un. Et après, j'en suis venue m'intéresser à l'agriculture et au vin. Je dirais il y a une dizaine d'années, ça fait 20 ans que je suis journaliste, donc j'ai fait 10 années sans forcément me spécialiser. J'ai un profil de journaliste généraliste. Et il y a 10 ans, voilà, des choix de vie familiaux, on va dire ça comme ça, m'ont amené à en faire un peu un métier, à faire du vin un métier, en tout cas me spécialiser. Et si on devait dater la découverte du vin, je pense que ça serait... alors, ça date un peu, hein, mine de rien, je dirais 2009. Voilà, mes premières vendanges.
Donc, une petite dizaine d'années, en effet, tu es passé par l'Australie, l'Alsace et le Muscadet.
Oui, exactement.
Ça fait un bon tour.
Oui, en fait, donc moi, je suis bretonne à l'origine de la région de Saint-Brieuc. Donc, il n'y a pas du tout de vin là-bas. J'ai travaillé en Alsace pendant 10 ans pour le journal Le Quotidien Régional Alsacien, les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA. Et c'est vrai que déjà, quand on travaille dans un journal comme ça, on a un territoire à couvrir. Et donc, dans mon territoire, qui était un territoire rural, à côté de Strasbourg, il y avait des vignes, évidemment. Donc, j'ai commencé à aller dans les vignobles, mais vraiment, je faisais ça et puis plein d'autres choses. Donc, on allait dans les domaines pendant les vendanges ou ce genre de choses. Et je n'y connaissais, mais alors, absolument rien du tout. Quand je repense à mes premiers articles sur le sujet, je n'aimerais pas trop les relire parce qu'à mon avis, j'aurais un peu honte. Mais bon, peu importe, j'ai eu la chance de tomber chez des super vignerons, déjà bien engagés. En Alsace, ils ont toujours un peu en avance là-dessus.
Oui, c'est une région qui est très biodynamique, l'Alsace. Peut-être une des plus de France.
Et puis même sur le bio, etc., ils étaient déjà bien engagés. Et en fait, d'emblée, moi, je suis rentrée dans le vin, finalement, par les vignerons. Voilà, par les reportages dans les vignes, par les paysages, par les questions sur les pratiques agricoles, les pratiques à la vigne, etc. Et pas forcément par la dégustation qui est venue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Voilà, donc c'est d'abord le reportage, les rencontres, les personnalités, le lien avec l'histoire, avec l'économie, et c'est tous ces aspects-là, moi, qui m'ont d'emblée intéressée en Alsace dans le vin. Et puis ensuite, je suis partie en Alsace avec mon compagnon. Alors, en Alsace, en Australie. Donc, en 2009, on a fait une année sabbatique, on va dire ça comme ça, même si on a travaillé en Alsace, en Australie, décidément. Et l'Australie, en fait, c'est l'exact opposé de l'Alsace. Et on peut pas faire plus de différence. C'était vraiment il y a rien de semblable, quoi. C'est vraiment en Alsace, tout est lié à l'histoire, tout est lié au patrimoine, et un attachement viscéral à certaines traditions, des cépages emblématiques, inamovibles, etc. Pour être vigneron, il faut être de la 7e génération, il faut avoir un chef. Enfin, il y a des codes très très forts. Et voilà, on n'y déroge pas, quoi. En tout cas, on n'y dérogeait pas à l'époque. Alors qu'en Australie, c'est tout l'inverse. En fait, n'importe qui peut être vigneron, n'importe où. Ils peuvent planter ce qu'ils veulent, faire des assemblages complètement farfelus. Enfin, en tout cas, du point de vue de l'Alsacien, hein, complètement oui. Farfelu. Enfin, c'est la liberté totale. Enfin, après, c'est du libéralisme, mais voilà, c'est la liberté totale. Et ça nous a complètement chambouler notre vision du vin, je pense, d'aller là-bas.
Et le muscadet, t'es passé par le muscadet. J'en profite pour le rappeler puisqu'on est en train de se servir un verre de muscadet au moment où on te pose quelques questions. Du coup, t'as travaillé là-bas aussi dans des domaines.
Dans le muscadet.
Oui.
Non, j'ai pas travaillé dans des domaines dans le muscadet parce que en fait, on a déménagé à Oudon en 2014. En fait, j'étais déjà journaliste et j'ai pas eu besoin d'aller travailler dans des domaines. Donc, j'ai fait les vendanges, mais pas pour moi, pas pour travailler, en fait, plutôt pour rendre service.
D'accord.
Donc voilà. Mais, quand je suis arrivée dans mon muscadet, j'ai démissionné, pour pouvoir partir. Et donc, je me suis retrouvée sans emploi. Et j'ai démarré comme indépendante, en fait. Et du coup, assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que les sujets vers lesquels j'avais envie d'aller, que j'avais envie de couvrir, c'était ceux liés au vin, notamment au monde du vin nature, etc., au vin de Loire. Et donc, petit à petit, j'ai tiré sur les chiens qui se présentaient à moi.
Tu le dis, tu le rappelles et tu me l'as rappelé il y a quelques jours, notamment au téléphone. Donc, t'es pas prescriptrice, t'es pas influenceuse, tu n'es pas dégustatrice. Tu es une journaliste 100% indépendante qui parle du vin de demain à travers notamment les enjeux climatiques. Quelle vision t'as du métier et de la presse vin en général sur cette question des enjeux climatiques traités de manière journalistique?
Je trouve ça assez compliqué, en fait. Le sujet du vin est souvent traité, je trouve, juste par l'angle c'est l'angle de la consommation, en fait, qui prime, quoi. Donc c'est le goût du vin, le rapport qualité-prix, les conseils de consommation, quel rosé choisir, comment bien acheter sa bouteille de chemin. Enfin voilà, c'est on s'adresse vraiment toujours aux consommateurs de vin. Et évidemment, c'est hyper important, mais en plus, les gens ils attendent ça de nous. Donc je ne dénigre pas le truc. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le sportage dans les vignes, en fait. C'est vraiment le côté vigne. En fait, le vin était pour moi une porte d'entrée vers une meilleure compréhension du vivant, de l'agriculture, de tous les enjeux, en fait, liés à ces espaces que je connaissais pas du tout, en fait. Et je trouve que le vin permet de comprendre ça. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'on réduise à juste, finalement, le produit final. Finalement, même si on ne boit pas de vin, on peut tout à fait s'intéresser au vin.
Oui, il y a la manière dont c'est produit. Et d'ailleurs, autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'au niveau de la presse générale, on met l'accent suffisamment sur les... Justement, sur la conscience du bouleversement climatique dans le vignoble, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme traité suffisamment bien ou c'est le début ou...
Je ne suis pas sûr, effectivement, que la presse spécialisée se préoccupe de ces aspects qui sont vraiment des aspects, finalement, d'agriculture. Je trouve qu'on a globalement plutôt des dossiers sur, effectivement, comme le disait Julie, quel est le meilleur vin, quels sont les domaines à connaître.
Une notation.
Il y a vraiment une histoire de préoccupation qui est sur le produit fini, sur l'acte de consommation, alors qu'en réalité, enfin, et moi c'est ce qui ça me touche particulièrement parce que c'est exactement l'inverse de ce que j'essaie de faire au bar, c'est-à-dire de parler de l'histoire de tout ça, les gens qui sont derrière, comment ils travaillent, à quoi ça ressemble les paysages dans lesquels ils travaillent justement, et c'est là-dessus je rejoins vraiment Julie sur le côté très d'autant plus d'espèces de vérité, c'est-à-dire que on a l'impression que on doit asséner une vérité sur tel ou tel sujet, alors qu'en fait il y a une telle complexité de ce monde qu'il faudrait plus se poser des questions, plus ouvrir des débats que d'essayer de donner des réponses qui ne sont absolument pas des réponses. Aujourd'hui on parle beaucoup de Dry January dans toute la presse, c'est stupide. J'ai été contacté récemment par un journaliste qui me dit « Alors, est-ce que vous ressentez l'effet Dry January dans votre bar ?» C'est vraiment pas des sujets qui sont importants à mon sens, voilà, bon.
Ouais, c'est des questions de journalisme.
Oui, mais dans le mauvais sens, dans le mauvais sens du journalisme, je trouve.
Valérie, toi, en boutique, on te demande de plus en plus la manière dont ça a été travaillé, ou on te demande encore d'avoir un nom, une appellation ou quelque chose, où l'envers du décor intéresse plus les gens.
Davantage, mais c'est vrai que c'est aussi à nous. On est quand même les ambassadeurs des vignerons, etc. Et puis de ce qui se passe, enfin voilà, par rapport à tout ce qu'on peut lire, tout ce qui nous intéresse autour de ça. Et c'est vrai que c'est à nous aussi d'emmener les clients à se poser des questions. Et je pense que ça, c'est notre travail au quotidien aussi, d'ouvrir. Et moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de... Pour ma part, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de clients qui s'intéressent à ça. Mais c'est de l'éducation aussi. C'est à nous, je trouve, les vignerons, tous les acteurs du vin, en fait, d'en parler et d'essayer justement de les sensibiliser. Et voilà. Après, oui, je pense que c'est notre travail au quotidien d'essayer de leur ouvrir l'esprit là-dessus aussi. Parce que c'est... Bon.
Ouais. En fait, en tout cas, je trouve que quand on parle de changement climatique ou de dérèglement climatique et au-delà de l'impact environnemental de certains types de viticulture, par exemple, en fait, on doit tous monter en compétence. C'est des sujets assez complexes avec, comme tu l'as dit, plein de controverses, de débats plus ou moins intéressants, etc. Et en fait, il faut monter en compétence là-dessus, quoi. Et c'est vrai que on peut avoir, je suis désolée, mais des sommeliers qui sont hyper forts pour identifier les cépages, les appellations, etc. Mais ils savent pas forcément tailler une vigne ou comment. Enfin voilà, quels sont les enjeux autour de la taille de la vigne. Ils vont pas forcément pouvoir expliquer je sais pas moi, pourquoi il faut mettre des couverts végétaux, etc. Enfin, c'est des choses qui aujourd'hui, en plus, sont vraiment, quand on discute avec les vignerons, il faut voir les débats passionnants que c'est, quoi. Je veux dire, ça va super loin et c'est vraiment super passionnant. Et le vin permet d'accéder à tout ça. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment dommage qu'on n'y passe pas plus de temps. Mais voilà, c'est parce qu'on n'est pas formé pour. Hein. Objectivement, ça prend un temps fou d'apprendre tout ça.
Alors, pour continuer à nourrir cette discussion, on te propose, même si tu es loin, de nous accompagner dans la dégustation d'un muscadet. Donc, on a aussi choisi ça parce que tu étais passé par là. Donc, on est en train de déguster un muscadet tous les quatre du domaine Ménard-Gabory. La cuvée s'appelle Contre-Courant, c'est le millésime 2022. Et on est sur un muscadet Sèvres-et-Maine. Voilà, travailler en agriculture biologique. Qu'est-ce que vous en pensez à la table ?
Déjà, sa robe, elle me surprend.
Elle est très surprenante. Oui.
Parce que moi, à l'aveugle, jamais j'aurais dit que c'était un muscadet. Et encore moins de 2022.
Oui, il est d'or.
Il est doré.
Totalement doré.
Presque une pointe oxydative, on pourrait imaginer.
Oui, bah, complètement. On a l'impression, effectivement, de tomber sur un vin qui a subi.
Donc pour les melons de Bourgogne, il est très coloré.
Les affres du temps.
Alors c'est peut-être un parcellaire, il fait plusieurs cuvées différentes. Là c'est un parcellaire qui va être élevé pendant un petit moment sur ses lits, pendant au moins un an je crois sur ses lits. C'est peut-être ça d'ailleurs qui peut lui amener ce côté un petit peu, cette couleur un peu dorée.
Oh non, c'est un vin très très. On le met pas spontanément en muscadelle, donc il est très très riche. Donc je sais pas si Julie voulait envoyer un message sur maintenant le muscadelle fait des vins très très riches. Je sais pas si c'est ça le message qui est derrière.
Non, en tout cas, j'ai pas goûté ce vin-là, donc c'est difficile d'en parler. Et puis c'est pas forcément mon essai non plus.
Non, mais enfin bon, il porte bien son nom.
Non, mais par contre, je sais que dans le muscadelle, en fait, aujourd'hui, les vignerons du muscadelle et Ménard Gabory, il fait partie de ce groupe-là. Il y a des vignerons qui sont en train de vraiment travailler sur l'expression des différents terroirs du muscadet, sur la capacité du muscadet à vieillir.
À vieillir,
enfin,
oui.
Ils sont vraiment en train d'explorer un peu toutes les facettes que leur, enfin voilà, que permet de réaliser leur terroir, puis le cépage aussi.
Ce n'est plus juste des petits vins secs et d'apéro. On peut avoir des grands vins de dégustation, des textures riches.
Oui, là, c'est le cas.
Oui, complètement.
C'est le cas. Là, on est sur un vin de gastronomie.
Ils vont à fond chercher là-dedans. Il y a vraiment une dynamique super intéressante dans le Muscadet, avec une association de jeunes vignerons du Muscadet. Tout le monde croyait qu'il y avait des vieux dans le Muscadet. Et en fait, il y a plein de jeunes. Voilà. Il y a plein de jeunes. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir des trucs intéressants. Franchement, ils font plein de choses, quoi. Donc, ils sont pas du tout, c'est pas du tout un vignoble qui repose sur ses lauriers et qui refait sans cesse le même truc. Au contraire, c'est en pleine évolution, quoi.
Ouais, il y a une grosse dynamique dans le Muscadet de Mer, on le voit depuis quelques années. Puis quand tu commences à voir que sur les cartes de grands restaurants, dont certains étoilés, tu as des Muscadets, c'est pas pour rien. Il y a de plus en plus de sommelières et de sommeliers qui défendent cette appellation, sans parler des cavistes. Je veux dire, aujourd'hui, le Muscadet, ça fait partie quand même des régions incontournables de vin pour moi, pour nous, en France, je pense.
En tout cas, il porte bien son nom. Il est effectivement à contre-courant. Il s'appelle contre-courant de l'image qu'on a du Muscadet. Donc, on a quand même, je trouve, le côté un peu léger, un peu gracile du Muscadet, mais beaucoup de richesse aromatique. Après, très franchement, peut-être qu'il manque un peu de longueur. C'est peut-être l'approche aussi de se dire qu'on est beaucoup sur l'aromatique. Et donc, voilà. Donc, aromatiquement, c'est vrai que c'est très complet, très complexe. Je pense que Lélie joue beaucoup. Et on a effectivement beaucoup de richesse. C'est plutôt un vin de gastronomie qu'un vin d'apéro.
Ça vous donne envie de manger ou?
Bah gravement.
Bah il faudrait pas, parce qu'on est qu'au début de la soirée.
Oui, mais ça met en appétit.
Bah c'est l'heure quand même de manger.
Alors Julie, tu habites dans un domaine viticole. Est-ce que ça nourrit des idées qui t'ont amené justement à la création de Vino Futur, vers ce quoi nous allons petit à petit?
Oui, alors ben justement, ça fait bien le lien avec les muscadets, parce que en fait, moi, l'idée de Vino Futur, enfin l'idée de me concentrer sur le changement climatique et le vin, c'est vraiment né de reportages dans le vignoble, d'expériences personnelles, malheureusement, liées au gel printanier dans la Loire. En fait, ça fait 10 ans que je suis là, et en gros. Grosso modo, il y a eu des gros épisodes de gel, on va dire 5 années sur 10, quoi. Alors pas partout, tout le temps au même endroit, voilà. Heureusement, ça compte pas toujours sur les mêmes, quoique. En fait, au début, les premiers reportages sur le gel, c'est 2016. C'était un peu l'événement exceptionnel, quoi. Prendre bas de combat, tout le monde sur le pont, la catastrophe arrive, etc. Puis après, ça s'est reproduit 1 année, 2 années, 3 années. Et en fait, le sujet exceptionnel, c'est venu le marronnier du printemps, quoi. Donc, tous les ans, au mois d'avril, mai, là, je refaisais les mêmes articles, enfin, presque les mêmes articles. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai constaté déjà d'une que les vignerons montaient en compétence sur le sujet, qu'ils adaptaient différemment, enfin, que leur gestion du phénomène changeait. En fait, au début, justement, c'était un phénomène exceptionnel. Et puis, aujourd'hui, ça n'est plus du tout.
Et du très coup, récurrent.
C'est très récurrent. Et ils ont compris. Ils ont compris, et surtout dans le muscadet, ils ont compris que ça faisait partie maintenant des contraintes de leur métier. C'est-à-dire qu'ils doivent vivre avec cette menace-là tous les ans. Voilà. Et ça n'arrive pas, mais en tout cas, ils doivent partir du principe qu'ils peuvent perdre 80% de leur récolte. Voilà, c'est une réalité, en fait. C'est pas du fantasme, c'est pas, c'est réel, quoi. Et du coup, ils ont adapté, ils changent leurs pratiques. Alors, c'est des petits gestes, et c'est aussi des réflexions beaucoup plus profondes sur des questions existentielles, quoi. Est-ce qu'on doit faire du vin ici? Est-ce qu'on doit continuer à faire du vin ici? Est-ce que quelle stratégie je mets en place? Est-ce que j'achète des éoliennes et je brûle du gaz ou du pétrole pour réchauffer ma vigne? Est-ce que je change de cépage? En fait, il y a 15 000 questions, des questions qui sont parfois très vertigineuses pour les vignerons. Et donc, j'ai eu tous les cas de figure, un peu selon l'ambiance. Des vignerons qui disent bon, c'est fini, de toute façon, on ne fera plus de vin ici. C'est mort, quoi. On ne peut pas tenir si on gèle une année sur deux. En fait, c'est plus viable. Et ça ne sert à rien de se battre. Et des vignerons qui étaient prêts à tout changer, passer à la polyculture, changer complètement leurs pratiques, bazarder Vitis vinifera et mettre que des hybrides.
Est-ce que c'est tout ça qui t'a donné envie ou tu t'es senti, c'était nécessaire de créer justement un journal qui traite de ça, qui pose ces questions-là?
Moi, j'ai senti, alors je ne sais pas si, je pourrais parler de pas de pressentiment, mais voilà, une intuition comme ça qu'il y avait là un vrai sujet à traiter à part entière. En fait, pour moi, le changement climatique et le vin, pour moi, le changement climatique, c'est un sujet à part entière. C'est pas on fait un article et puis on passe à autre chose. En fait, tous les sujets doivent être traités au prisme du changement climatique. Qu'on parle d'économie, qu'on parle de technique, qu'on parle de commerce, qu'on parle de culture, en fait, tout doit être traité à l'aune de ce dérèglement-là, en fait, puisque ça touche à tout. Donc, on ne fait pas juste un sujet qu'on traite et puis le reste du temps, on fait comme si, ça y est, on l'a traité, donc on n'en parle plus. Je parle du point de vue journalistique dans le cadre d'un chemin de fer, d'un magazine ou d'un projet. En fait, tous les vignerons devraient leur poser la question: comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous adapter? Qu'est-ce qui vous fait peur? Enfin, qu'est-ce qui vous fait espérer, etc. Parce qu'ils sont tous concernés, ils sont en première ligne et ils ont des choses à nous apprendre, quoi, parce que quand on est citadin ou un peu déphasé du monde agricole, comme c'est le cas de pratiquement tous les Français aujourd'hui,
on est déconnecté de la vigne et enfin en tout cas du naturel
vivant.
Et du vivant,
on est déconnecté des réalités du vivant,
tout à fait,
et d'avoir un vigneron qui nous explique qu'en fait les hivers plus doux, c'est ça qui fait que ça gèle, que il faut tout réexpliquer, que j'en sais rien moi, que en fait on peut pas changer du jour au lendemain de variété de vigne, mais c'est vrai aussi pour d'autres cultures parce que il y a plein d'applications, que le goût du vin va changer. En fait, il y a plein de choses à expliquer comme ça parce que c'est le vivant, c'est incontournable, en fait. C'est pas quelque chose qui est théorique.
Alors, je crois que Patrice a une question à poser.
Ouais, oui. Juste pourquoi, j'ai mon idée, mais pourquoi le vin et la vigne est un bon indicateur pour parler du futur, si on revient sur Vino Futur?
Alors, il y a plein de raisons. Alors déjà, sur le changement climatique, en fait, le vin, les vendanges ont toujours été un indicateur utilisé par les paléoclimatologues, donc ceux qui étudient l'histoire du climat, comme point de référence, en fait, pour évaluer les climats au Moyen-Âge, etc. En fait, les traces, ils ont les arbres, quand on les coupe, on voit les cercles, ils ont les glaciers, les carottes qui sont dans la glace, et les vendanges. C'est bizarre, mais voilà, les vendanges ont toujours été plus ou moins référencées quelque part, puisque c'était de l'argent, etc. Et on sait que une vendange précoce, une vendange particulièrement abondante, c'était le signe d'un été plutôt favorable, alors qu'une vendange petite, ça veut dire qu'il avait fait un temps pourri, quoi. Donc comme ça, grosso modo, c'est un peu plus compliqué que ça, je pense, mais ils arrivent à évaluer le climat. Donc de toute façon, la vigne est un indicateur du changement climatique, même pour les climatologues. Donc Et en plus, moi, je pense qu'aujourd'hui, le vin, c'est aussi on en parle souvent, on dit c'est la terre qui s'exprime, c'est le vivant qui s'exprime dans le vin, en fait. Et en fait, on a le climat dans un verre, on a le lieu dans un verre, et en fait c'est aussi le temps. Je l'exprime très mal, mais c'est aussi la mémoire, quoi. C'est aussi de dire en fait, on veut goûter le climat d'il y a 20 ans. Il suffit d'ouvrir une bouteille de vin d'il y a 20 ans et on voit l'évolution, on la sent gustativement et au niveau des sens, en fait. Donc c'est vachement plus facile à expliquer qu'avec des carottes Pourtant, les, je pense que les producteurs de carottes ont les mêmes problèmes.
Je suis d'accord, c'est qu'effectivement, le vin est un marqueur de plein de choses. Et c'est un marqueur, parce que c'est un, la vigne elle-même est un synapse, hein, c'est un relais énergétique qui transmet tout ce qu'elle touche dans la terre. Donc, elle exprime parfaitement ça.
Ça réalise un temps donné, une expérience.
Et voilà, on a le goût du climat, en fait. C'est un des rares objets qui permet d'avoir le goût du climat. Bah, quand on parle de degrés d'alcool qui montent, de cépages qui évoluent, donc c'est vraiment pour moi un marqueur dans tous les sens.
Tu prends une photo d'un moment, en fait.
Voilà, plus le fait que voilà, le vin c'est du temps, au-delà de la date de vendange, hein, parce qu'on sait qu'il faut 140 jours entre le moment où les bourgeons sortent et puis le temps de vendange. Donc c'est vrai que c'est un vrai indicateur de ça. C'est que c'est vraiment un marqueur et c'est aussi un marqueur. Dans Fino Futur, c'est aussi un marqueur un peu sociétal. C'est-à-dire que le mode de consommation aussi fait que, bon, on boit de moins en moins de vin, on boit du vin aussi. Donc, c'est climatologique, on arrive à avoir le goût du climat, mais il n'y a pas que le climat, c'est aussi sociologique. Et donc, je pense que c'est effectivement un bon indicateur, parce qu'en plus, le vin, ça existe depuis des centaines d'années. Donc, c'est un traceur un petit peu universel. Donc, je pense qu'effectivement, la vigne, pour plein de raisons, et le vin, est un bon marqueur de notre temps, quoi.
Mais en parlant du côté sociologique, pardon, Julie,
j'y ajouterais juste un aspect, c'est que, en fait, aujourd'hui, le changement climatique, c'est quand même pas un sujet super léger. C'est pas foufou et ça peut être un peu plombant. Et en fait, le vin permet aussi d'aborder le sujet sous l'angle du plaisir et de dire en fait est-ce qu'on a envie de, il y a des choses qu'on va devoir changer, mais il y a aussi des choses qu'on a envie de garder, et ça peut en faire partie en fait, et du coup c'est bien d'avoir quelque chose vers lequel à défendre en fait, quelque chose qui est de l'ordre du plaisir en fait, tout simplement quoi. Donc et le vin permet aussi de c'est un peu des clichés, mais voilà, c'est aussi on se réunit en fait, on partage une bouteille, c'est aussi un moment idéal pour discuter, pour échanger sur ces sujets-là, quoi. Encore une fois, les carottes ne permettent.
En parlant en revenant sur Vino Futur, donc Vino Futur, tu l'appelles Vino Futur alias le journal du vigneron du futur. Donc, qui associe ton expérience de la vigne à ton regard de journaliste d'investigation. Pour toi, Vino Futur, est-ce que c'est un engagement citoyen et est-ce qu'on peut dire que le vin est politique?
Alors, on peut définitivement dire que le vin est politique. Vino Futur est un journal engagé, mais pas militant. Voilà, dégagé, engagé, mais dégagé de toute allégeance à quelque chapelle, courant ou toi, quoi que ce soit d'autre. Et oui, je suis assez convaincue qu'on n'en parle pas assez déjà du changement climatique, mais aussi du volet social, politique du vin. Je trouve que c'est des sujets qui sont sous-traités, donc mon engagement consiste à mettre ces sujets-là à l'honneur, hein, tout simplement, à en parler, à prendre le temps de travailler sur ces sujets-là et d'enquêter dessus, en fait. Donc, c'est une forme d'engagement aussi, en fait, de dire on ne va pas parler du vin que pour... je fais pas la vitrine du vignoble, en fait, c'est pas mon boulot. Je suis pas là pour défendre la filière, je suis pas la vitrine de tel ou tel type de vin. Et je vends rien à personne en fait, à part mon journal. Mais voilà, et c'est ça qui est hyper important. Alors il y a le fait qu'il n'y ait pas de publicité déjà dans mon journal, mais même quand il y a de la pub en fait, peu importe, finalement on peut avoir de la pub et avoir aussi des hautes ambitions, hein, c'est pas un problème. Moi je m'adresse aux citoyens en fait. Je m'adresse pas aux consommateurs, je m'adresse aux citoyens. Parle de l'intérêt général et de l'intérêt partagé autour du vin, quoi. Voilà. Donc
pour revenir sur Julie, juste pour revenir sur Vino Futur, pour ceux qui connaissent pas, et moi je le connais pas depuis très très longtemps, c'est quoi son format, c'est quoi sa périodicité, c'est quoi comment on consulte, enfin c'est quoi le journal en fait.
C'est vrai, on en parle comme si tout le monde savait.
Énormément de gens en savent, mais c'est pour les quelques-uns qui ne sont pas encore au courant.
C'est Max Media. Donc Vino Futur est un journal, un média né en 2021, fin 2021, qui prend la forme d'un journal papier annuel, voilà, comme le vin. Voilà, millésimé, etc. Donc, pour l'instant, il y a eu 3 numéros. Donc, c'est un journal en papier qui a la forme d'une grande, comme une grande page.
Qui se déplie.
Qui se plie et se déplie. Et donc, en fait, il y a une page. Voilà, c'est un journal avec une page. Des fois, on me demande combien de pages. C'est toujours un peu compliqué à expliquer. Donc, il y a une page recto verso. Et dedans, on trouve des articles format enquête, interview. Enfin, voilà, il y a différents formats écrits par des journalistes, donc moi ou quelqu'un d'autre. Il y a aussi toujours une fiction. Une vie nous fiction, j'appelle ça, parce que l'idée, c'est aussi de se projeter en 2072. Et donc, j'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout et utiliser la fiction pour ça. Je trouve que c'est un petit exercice qui permet d'aborder le sujet encore différemment et puis aussi de parier sur l'imagination. Voilà.
Alors, j'ajouterais que quand on s'abonne à Vie nos futurs, on s'est aussi assorti d'une newsletter mensuelle. Que produit
et
Julie.
C'est aussi, ouais, c'est une veille sur le futur du vin qui est plutôt pour les pros. Alors Vino Futur, c'est le journal papier, c'est vraiment pour les passionnés du vin, je dirais, passionnés de d'agriculture et de climat, mais vraiment passionnés de vin. Alors que la newsletter est plus pour les professionnels, quoi, ou vraiment très 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 passionnés, je pense. Voilà. Donc et voilà, pour l'instant c'est ça. Après j'ai plein d'autres projets. J'ai publié 3 numéros du journal papier pour l'instant. Le dernier s'est publié en décembre 2023. Et voilà.
D'ailleurs, tu y parles de robots et tu y parles de l'acquisition des vignes de Provence, notamment par LVMH. C'est très intéressant. On recommande chaudement cette lecture.
Comment on se le procure ?
Voilà, c'était ma question.
Sur le site internet de Vino Futur, si tu veux en parler un peu, Julie, comment on se procure ?
Oui, bah, on peut l'acheter en ligne, effectivement, sur vinofutur.fr. Donc, le numéro 3 coûte 7 euros.
Chez des cavistes indépendants également.
Il y a
également
aussi des cavistes qui sont sur le site, qui sont des relais importants et voilà, c'est toujours des cavistes plutôt engagés qui soutiennent et les médias indépendants et les sujets, etc. Donc merci à eux.
C'est pas cher, c'est peu onéreux. Le travail d'une
c'est le travail d'une année, c'est peu onéreux. Après, justement, j'ai pensé pour qu'ils soient vendus, je pars des cavistes et je trouve ça important que ça soit pas plus cher qu'une bouteille de vin. Parce que c'est quand même des cavistes qui vendent du vin, donc l'idée c'est pas que les gens achètent une bouteille en moins, plutôt qu'ils achètent un journal en plus. Donc c'était un peu comme ça que j'ai fait, et aussi parce que la presse papier, les gens qui achètent un journal sont déjà pas très très nombreux.
Oui, c'est difficile.
Voilà.
Est-ce que on parlait un peu de journalistes aussi il y a quelques jours, des journalistes qui étaient spécialisés dans le vin. Est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes justement qui sont spécialisés dans le vin, des journalistes d'investigation ?
J'en connais pas beaucoup. Je pense que quand on dit journaliste vin, on sous-entend critique, en fait. Voilà. Donc je pense que après c'est. C'est peut-être une faille dans mon truc, hein, de ne pas être capable. Je suis capable de déguster du vin. J'ai rencontré suffisamment de professionnels. Je suis entourée de suffisamment de pros du vin, canistes, sommeliers, vignerons, j'en passe, pour mesurer mes limites, quoi. Donc je vois pas du tout l'intérêt en ce qui me concerne de donner l'avis de Julie Reuss sur le tel vin, n'a peu d'intérêt à mon sens, quoi. Voilà. Donc je vois pas trop l'intérêt du tout, quoi. Mais je pense que y a pas beaucoup d'articles d'investigation sur le vin. Alors là il y a eu des enquêtes, mais souvent c'est le fait de journalistes d'investigation, en fait, qui sont extérieurs au sujet, comme quoi l'expertise c'est pas forcément la meilleure chose, quoi.
Ok. Est-ce que justement par rapport à ce que tu nous dis là, quand on est une journaliste vin indépendante qui en plus de surcroît produit un journal sans pub et sans partenariat commercial, est-ce qu'on en vit bien? Est-ce qu'on peut avoir une vie correcte tout en étant totalement indépendant?
j'en vis mal. Donc voilà, après j'ai adapté aussi ma vie à mes ambitions. En fait, moi mon modèle, c'est vraiment les vignerons. C'est bête à dire, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais vous savez, ces vignerons, on l'avait rencontré, je pense, qui ont des principes très forts, des valeurs très fortes. Voilà, qui ont choisi de faire du vin parce qu'ils sont passionnés de vin, mais aussi parce qu'ils avaient envie de retrouver du sens, de relier la nature, etc. Enfin, tous ces trucs-là, ça paraît un peu bullshit quand on dit comme ça. Sauf qu'en vrai, on rencontre des gens, nous, on a la chance de le faire, de rencontrer des gens qui sont parfaitement alignés entre leurs valeurs et ce qu'ils font, en fait. Et moi, c'est ça, mon modèle, en fait. C'est d'arriver à dire, OK, j'ai des valeurs fortes, j'ai envie de les défendre. Et en fait, ce qui fait sens pour moi, c'est ça. Et le reste, le matériel, oui, c'est dur. Oui, j'en bave. Oui, j'aimerais bien gagner un peu plus d'argent, mais c'est moins important que le reste. Voilà, ça paraît un peu compliqué, un peu idéaliste. Tant pis, je garde quand même. Je garde quand même, en fait. Les vignerons sont vraiment, pour moi, des sources d'inspiration pour ça. Voilà, je trouve que c'est des gens que j'ai rarement rencontrés. Pourtant, dans mon métier de journaliste, je vois toutes sortes de gens tout le temps. Et les vignerons, c'est ces gens-là qui sont au bon endroit. Ils sont nés pour faire ça. Ils le font avec toute leur âme. Et voilà, je trouve ça tellement inspirant. Quoi. Ça fait tellement du bien. Voilà, je trouve qu'on devrait tous être comme ça, en vrai.
Ouais, merci Julie pour cette réponse. Oui, en effet, ce serait un monde idéal de pouvoir être totalement indépendant et en plus d'en vivre correctement. C'est pour ça que c'est important de soutenir Vino Futur. D'ailleurs, on va aussi refaire une étape dans ton passé pour arriver dans le futur, puisqu'on s'est arrêté là un petit moment en Alsace sur un pinot noir qu'on est en train de déguster tous les quatre. Donc, c'est un pinot noir du domaine Ebinger.
Ebinger.
Ebinger, un truc un peu futuriste, tu vois. On est sur un millésime 2022, 100% pinot noir. Voilà, donc on est vers Egisheim, donc pas très loin de Colmar.
Egisheim.
Ouais. Apprenez-moi à parler, s'il vous plaît.
Tu faisais plutôt espagnol en deuxième langue.
Egisheim.
Ça fait vraiment plaisir. Que ce soit ce vin-là, parce que on s'était pas concerté sur les vins ce soir. En tout cas, moi, j'avais pas été du tout dans la discussion sur les vins. Et bon, il se trouve que Denis, c'est un vigneron que je connais bien, puisque j'ai ses vins depuis déjà pas mal d'années au bar.
C'est super.
C'est un personnage très attachant, qui a une vision assez, je pense, assez futuriste du vin alsacien, ou du vin d'Alsace. Je sais pas ce que tu en penses, Julie.
Il est en biodynamie certifiée.
Si tu as déjà eu l'occasion de rencontrer Denis Ebinger.
Non, je crois pas que je l'ai rencontré.
Bah, il fait partie vraiment de cette jeune génération de vignerons alsaciens qui décide d'aller encore plus loin que ses parents, parce que ses parents étaient déjà passés sur la biodynamie hein, depuis pas mal d'années. Donc c'est un domaine qui est vraiment ancré dans la biodynamie, mais qui, avec l'arrivée de Denis, va plus loin en limitant de plus en plus la quantité d'intrants. Et Dieu sait qu'il y en a assez peu quand même quand on est déjà certifié Déméter. Mais il fait beaucoup de vins blancs de macération. Il fait beaucoup de choses maintenant sans sulfite ajouté.
Sans intrants.
Ouais, tout à fait. Et je suis un gros fan de ces vins. Donc je suis très chouette, très content qu'on ait ce vin ce soir.
Bon bah tant mieux. C'est un pinot noir. Je sais pas ce que t'en penses, Valérie, mais qui est un peu éclatant. Il y a un fruit immédiat.
Oui, tout à fait. C'est très très simple. Assez épicé, moi je trouve. Très très chouette. Ouais,
vraiment. C'est vraiment le pinot noir, le vin d'été. Hein, c'est peut-être pas, on est en plein hiver, c'est pas obligatoirement ce à quoi on pense, quand on a envie d'un vin rouge désaltérant, frais, ce pinot noir est juste la réponse parfaite, quoi.
Alors, ce coin est intéressant. Alors, attention, préparez-vous à me reprendre au niveau de mon langage. Mon alsacien. Donc là, je disais qu'on était du côté, donc, de Egisheim. Est-ce que c'est mieux?
Egisheim.
Ouais.
Donc c'est assez intéressant parce que c'est une des rares communes, c'est la seule commune d'ailleurs à compter deux Alsace Grand Cru, Eichberg et Pfersigberg. Vous noterez que je me suis donné du
si
mal.
Si tu le dis.
Muy bien.
Voilà, mais, gracias. Merci beaucoup. Voilà, donc on déguste ce joli pinot noir qui nous ramène beaucoup de légèreté.
Moi, je trouve que dans le contexte, là, c'est pas mal, hein, parce que tu parlais de saison, et j'ai envie de dire, là...
Oui, non, mais pas bien. Ça se boit toute bah saison, oui, mais, je trouve que là, mais c'est pas mal, vraiment, là. Pour moi, c'est le...
Dans notre contexte, là, au studio, on est pas mal.
Ouais,
oui, puis ça ramène un peu de légèreté à un contexte pas toujours évident.
C'est léger, après, je trouve qu'il a de la matière, comme tu disais,
épicé. Oui, c'est texture.
Oui, là, il y a quand même pas mal de matière. On a un peu l'idée du pinot noir gracile, fluet, qui se cache derrière les pinots de Bourgogne. Là, on a un pinot qui s'exprime super bien, qui est dans le fruit, qui a de l'épice, je sais pas ce qu'est le terroir, sur quoi il est, mais bon, j'aurais tendance à mettre un peu de volcanique là-dessus.
On n'est pas sur du parcellaire, donc...
C'est épicé. Donc,
il est vraiment dans une logique sur ses cuvées à essayer d'aller de plus en plus sur du parcellaire. Et il a un pinot noir, justement, qui est le W, je ne sais combien, qui est sur Vinsenheim, qui est un pinot noir qui est travaillé en fût, donc sous bois. C'est juste remarquable, hein. C'est des rapports qualité-prix en termes de pinot noir quand on pense à d'autres régions où les prix des pinots noirs s'envolent. C'est vraiment une...
Tu parles de la Bourgogne, là, non?
Ouais,
je sais pas. Hein.
Éventuellement. Non, mais beaucoup de gens ne jurent que par la Bourgogne sur le pinot noir. L'Alsace, je sais pas si c'est...
L'Alsace arrive fort, quand même.
Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais maintenant, on a des pinots noirs qui sont capables de rivaliser. Alors bon, après, c'est deux profils de vin différents.
Mais... Est-ce qu'on sait si la surface en pinot noir augmente en Alsace?
Elle augmente, oui. Elle augmente et la plupart des vignerons avec qui je discute, je suis allée en Alsace il n'y a pas très longtemps, tous m'ont dit on va planter du pinot noir. Parce que le Riesling rencontre des grosses difficultés.
Et puis, c'est un sens du vin futur aussi, c'est que le pinot, ça devient un terroir.
C'est un terroir qui va accueillir le pinot noir. Favorablement, en tout cas. Donc, on est un peu dans le futur, tu vois, nous aussi. Du coup, Julie, ton ambition pour Vino Futur et l'avenir du vin, selon toi, ça serait quoi?
Mon ambition, ça serait que Vino Futur continue et se développe. J'aimerais bien pouvoir faire travailler plus de gens. En fait.
Ça pourrait être un mensuel, par exemple, Vino Futur, si tu avais la possibilité.
Je ne sais pas. Pas sous cette forme-là. Par contre, c'est un format newsletter, oui. J'aimerais bien développer la newsletter avec des contenus, des rencontres, des dossiers thématiques, etc., plus approfondis. Par contre, le journal papier, non, j'ai vraiment envie de rester sur le rythme-là, ou peut-être un semestriel éventuellement, mais il faudrait que je gagne au loto, je pense, pour ça. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un pas de côté, de prendre le temps de réfléchir, de faire travailler aussi des artistes, des auteurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il y en ait plus, en fait. Je trouve que ça suffit en réalité, quoi. Donc, j'ai pas forcément envie d'en faire plus. Par contre, oui, la newsletter, j'aimerais vraiment la développer. J'aimerais pouvoir aller voir des experts, des scientifiques notamment, assez pointus sur des sujets, pour creuser vraiment tout un tas de questions que je suis passionnante. Après, j'y vais petit à petit. J'ai toujours voulu faire un truc petit au départ et d'améliorer au fur et à mesure, plutôt que de monter une usine à gaz, pas possible.
Doucement mais sûrement.
Doucement mais sûrement.
Et doucement mais sûrement, on peut te trouver sur d'autres terrains de jeu aussi, puisque avec Eva Robineau, donc qui est une autrice passionnée de vin, vous avez créé notamment via l'Instagram Vinofiction, où j'ai pu d'ailleurs apposer une petite pierre à l'édifice, donc la thématique du le vin en 2072. Alors pourquoi vous avez choisi 2072?
Ça, c'est moi. En fait, le premier journal, c'est sorti en 2022, donc j'ai 50 ans, c'est 2072, c'est pas nul en fait. Et j'ai gardé cette date-là, parce que je la trouve rigolote, ça oblige les gens à compter et à réfléchir. Et aussi, je voulais aller dans le futur pas trop proche. En fait, 2050, c'est trop près. 2055, on n'en parle même pas. Voilà, c'est beaucoup trop près. Moi, je voulais vraiment aller dans le futur loin, quoi. Mais, enfin, réalisable. En fait, 2072, c'est nos enfants, quoi. Enfin, c'est pas non plus complètement.
Complètement, mais c'est encore demain, quoi.
On sera encore là.
On sera peut-être là, oui.
Et aussi partir de la question.
Pas en grande forme, mais.
Que tous les vignerons se posent un jour, voire plusieurs dans leur carrière, c'est qu'est-ce que je plante? Et quand on plante de la vigne, normalement, on réfléchit à 40, 50 ans. Voilà, c'est pas délirant comme horizon, en fait. Donc, il y avait aussi cette idée-là.
Je pense que il faut quand même qu'on apporte un bémol à ça, parce que aujourd'hui tout s'accélère et on se rend compte que on a beaucoup plus de mal à se projeter certainement sur 50 ans, même dans le domaine de l'agriculture.
Je trouve que c'est bien de faire cet effort justement, parce qu'on a juste des perspectives court terme. Et donc le fait de penser à 2072, je trouve ça bien de se projeter après.
Tout à fait.
Parce que la nature du monde ne fait que nous projeter sur si c'est pas demain, c'est maintenant, si c'est pas de la seconde.
Il y a quand même une accélération, tu te rends bien compte, il y a une accélération.
Mais justement, je trouve ça intéressant de se projeter. Après, là où je suis d'accord, c'est que les vignerons, ils plantent plus à 10-15 ans, voire 20-30 ans, compte tenu des maladies de la vigne, etc., où on sait que la vigne maintenant, elle a plus de 30 ans aujourd'hui. Elle a plus de 30 ans d'espérance de vie qu'autre chose. Mais je trouve ça intéressant de se projeter à 2012. Et ce qu'on a peut-être pas très dit, ou pas beaucoup dit, c'est que nos futurs, je le dis parce que c'est écrit aussi dans l'édito, on va dire, la présentation, c'est que ça parle beaucoup moins du futur que des angoisses du présent, en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme les films d'anticipation ou les films. Voilà. Exactement, c'est que.
Je sais pas si vous lisez de la science-fiction, mais la science-fiction, moi j'en lis beaucoup. J'en lis, je regarde aussi, mais en fait, quand on lit de la science-fiction, ça parle, c'est tout de l'époque.
Tu parles d'aujourd'hui.
Ça a été utile, en fait. Hein. À un moment, il avait peur de la destruction totale par le nucléaire, et il y avait plein de trucs. À une autre époque, c'était totalitarisme, donc on a eu.
1984,
George Orwell. 1984. Voilà, c'est ce truc-là. Donc, ça dit de l'époque où ça a été. Quoi. Aujourd'hui, on a peur de notre fin. Donc, on a peur de disparaître. Quoi. Donc, voilà. Moi, avec Vinofiction, Alessandra, on a demandé à des professionnels du vin, des vignerons, mais aussi d'autres professionnels comme Alessandra, de d'écrire leur propre nouvel de fiction. On a fait ça avec Eva Robineau, qui travaille dans la communication sur le vin à Angers. Et qui est fan de vin nature et de science-fiction comme moi, c'était improbable suffisamment pour qu'on fasse un projet ensemble, en paraît. Et on a demandé donc à une douzaine de professionnels avec des profils, des parcours, des âges différents, des régions différentes, vraiment très divers. Et en fait, ils ont tous écrit des histoires abominables. C'est-à-dire qu'ils font dans nos lits pleurer, quoi. Ça dit quelque chose. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un côté thérapie là.
C'est à la fois abominable, mais le vin existe. C'est quand même ça qui est intéressant. C'est que finalement, c'est vrai, le vin est là.
Donc, le vin est toujours là.
Le vin est quand même toujours là.
D'une autre, même de façon virtuelle parfois, voilà. Le vin est là, effectivement. Mais dans tous les cas, personne n'a imaginé un futur qui fait rêver, en fait. C'est toujours un peu flippant quand même. T'es d'accord, Alessandra?
Je suis assez d'accord.
Mais voilà, après les textes, moi j'adore, hein. Je me suis régalée quand je dis abominable, c'est pas un jugement sur la qualité des textes, c'est vraiment en termes.
Oui, c'est le côté un peu fin du monde en fait, hein. un peu apocalyptique, où ça devient un objet de guerre ou autre.
Ouais. Quand on demande aux gens, et aux vignerons en particulier, comment vous voyez votre univers, votre métier dans 50 ans, mais si à chaque fois qu'un vigneron avait dit, je sais pas si on sera encore là dans 50 ans, ça avait pris en euros, mais je serais riche aujourd'hui. Les vignerons, aujourd'hui, c'est horrible de le dire, et c'est ça qui me... Enfin, c'est déprimant, quoi. Mais aujourd'hui, ils se posent vraiment la question de savoir s'ils existeront encore dans 50 ans. C'est pas... Là, pour le coup, c'est pas une question de journaliste, hein. J'en suis convaincue.
Oui, en effet, beaucoup de domaines le disent, c'est vrai.
Voilà. Et les agriculteurs, un peu moins, parce que eux, ils font à manger, donc ils savent qu'on aura toujours besoin d'eux sous une forme ou sous une autre. Mais malgré tout, c'est déjà compliqué pour eux de se projeter. Mais alors, les vignerons, c'est la cata. Quand vous allez dans le sud, c'est pire, quoi.
D'où des réponses parfois qui pourraient être aussi des solutions et donner un petit peu de positif à tout ça, notamment les cépages hybrides dont je crois on a toi et moi rencontré des personnes en commun. Mais Voilà, il y a des solutions. Moi, j'aime à penser qu'il y a des solutions et qu'il y aura du vin demain et qu'on trouvera des bons vins. Parce qu'il y aura des gens de talent qui sauront utiliser des techniques peut-être plus modernes et qui aussi allieront le respect du vivant qui, pour moi, est, enfin, je pense autour de cette table, est quelque chose d'important. Et que l'hybridation aura peut-être aussi son mot à dire, ça ou autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la
oui,
table.
Complètement.
Qu'est-ce qui peut nous arriver de mieux, en fait ?
Non, mais enfin, moi, quand on se projette dans le global, c'est sûr que on peut être assez catastrophique. Moi, l'avantage des vignerons,
c'est qu'on a plus de chances de l'être.
Je suis assez optimiste sur le small and beautiful. Je pense qu'il y a une grande autonomie des domaines qui enfin polyculture, on abordera ça,
mais
agroforesterie, etc. Et je pense que voilà, l'espoir est dans ces micro Éden là entre guillemets, parce que c'est aussi des terrains d'expérimentation folle. Et les gens qui ont ces démarches là voilà, donc bah, je suis allé optimiste sur la capacité d'expérimentation des vignerons. En tout cas, si la perspective, je veux pas que les vignerons sauvent le monde, enfin je l'espérerais, mais c'est pas possible. Mais sur la capacité à avoir du vin encore dans 50 ans, je suis assez voilà confiant dans leur capacité d'expérimentation, de résilience. Et c'est vrai que les vignerons dits en approche plutôt non conventionnelle, ben justement ils cassent les dogmes. Et c'est ça qui va permettre d'innover dans des approches globalement plutôt nature, hein, sans faire, mais voilà, plutôt des approche naturelle en lien avec le vivant, et c'est plutôt dans la symbiose et la polyculture, à mon avis, que l'avenir du vignoble pourra s'inscrire.
Alors, je pense qu'on est tous.
Je pense pas que les solutions elles soient techniquement. Il n'y a pas trop de doute en fait sur la capacité à faire pousser de la vigne en France. Dans 50 ans, on pourra peut-être plus en faire dans certaines zones des Pyrénées-Orientales, mais quand même, il y a plein de régions en France. Encore largement compatible avec l'écriture de la vigne. Ce qui va poser question, c'est toutes les questions politiques, en fait. Politiques, économiques, etc., sur la capacité du vignoble à absorber tous les changements nécessaires pour être là dans 50 ans, quoi, et à l'accompagner sans qu'il y ait une casse énorme, en fait. Enfin, c'est aussi ça, l'idée, c'est de dire, OK, on fera encore là dans 50 ans, mais si c'est pour que.
Mais à quel prix ?
À quel prix ? Si c'est pour que les trois quarts restent sur le carreau, ben non merci. C'est pour avoir, je sais pas, moi, j'ai pas hors de prix et réservé à une élite, ben non merci. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses dont on n'a pas envie, et c'est ça aussi l'idée de se projeter à long terme. C'est non seulement de dire voilà ce qui va arriver. Moi, je suis pas Madame Irma et je prétends pas faire de prédictions, etc. C'est plutôt de dire de quoi on a envie. Qu'est-ce qu'on veut ? De quoi on rêve, en fait ? Et du coup, qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui se présentent, et c'est pas parce que c'est possible que c'est la bonne solution et qu'il faut y aller. Donc, il va falloir faire des choix. Et ces choix-là, c'est nous qui les prenons maintenant. Donc, et les vignerons, ils sont confrontés à ces choix, et les consommateurs vont l'être aussi, parce qu'ils vont voir arriver des nouveaux profils de vin, et ce sera à eux de dire oui, on prend, non, on prend pas, on préférait ceux d'avant, et du coup, on vous laisse tomber parce que vous n'êtes plus capable de faire ce qu'on aimait, donc merci, mais au revoir. Vous voyez, donc il y a plein de choses comme ça, et c'est des choix qui sont cruciaux et qui sont, qui sont de l'ordre du politique, en fait. Et oui, c'est des choix techniques à la base, mais quand on est à l'échelle du vignoble, ça devient des choix politiques, en fait. Si on décide d'aller vers l'agroécologie et pas forcément vers. L'agriculture high-tech avec des panneaux photovoltaïques, des drones, de l'irrigation, etc. Enfin, vous voyez, c'est des choix complètement différents. Les deux cohabiteront probablement, mais n'empêche que, il faut choisir aujourd'hui.
Voilà, il faut choisir aujourd'hui pour pouvoir essayer de faire les meilleurs choix pour demain. Alors, on arrive doucement vers la fin de ce podcast. Je voulais savoir, Valérie, à ton avis, il aura quel goût le vin en 2072 ?
Oh, c'est une bonne question, dis donc.
Quel goût t'aimerais qu'il ait, toi ?
Oh là là. Ben moi, j'aime déjà tellement le goût qu'il a aujourd'hui. Alors après, je veux bien me projeter, mais j'aimerais bien quand même qu'il reste quand même quelques petites réminiscences de ce que je connais aujourd'hui quand même. Parce qu'il y a quand même des moments d'alchimie totale où on se dit, mais demain, tout peut s'arrêter tellement on a vécu un moment de dingue où les poils sont comme ça, tac, et voilà, avec des moments de frissons. Donc voilà, Je ne sais pas, j'avoue.
Tu veux qu'il ait un goût d'émotion, en tout cas.
Ah, ça, c'est assurément. Donc, là, il n'y a pas photo là-dessus, ça, c'est clair. Après, c'est vrai que bon, on verra après sous quelle forme. Mais oui, l'émotion, ça c'est indispensable. Enfin, celui qui boit du vin toute sa vie pendant 50 ans, comme j'ai entendu une fois récemment, qui me dit je serais incapable de dire, j'ai pas d'émotion particulière, je bois. Enfin voilà, c'est assez étonnant quand même. Je me dis, attendez, vous revenez me voir, on en reparle parce que là il faut faire quelque chose. Monsieur doit avoir 80 ans. J'ai dit, écoutez, monsieur, je crois qu'on peut encore faire quelque chose.
Il faut qu'il passe des journées dans ta cave et des soirs au wine therapy.
C'est ça exactement. Je crois qu'il faut qu'on discute.
Laurent, t'aurais des choses à ajouter?
Non, je pense que on a parlé d'effectivement, enfin Patrice était sur le small et le beautiful, etc. Je pense qu'il faut quand même qu'on ait en tête que on a aujourd'hui un pourcentage de la consommation qui se fait sur des vins de masse.
80% quasiment.
À prix très abordable, qui valorise pas du tout le travail des vignerons. Je pense qu'il faut qu'on ait bien ça en tête. On parle d'un vin, nous, autour de cette table, on parle d'un vin d'élite. Donc, moi, ce que mon vœu pieux pour dans 50 ans, c'est que on ait un goût du vin qui provoque de l'émotion à un plus grand nombre, parce que finalement, je pense que aujourd'hui la consommation du vin, des choses qui sont faites mécaniquement, sans âme, c'est le gros de la consommation en France et dans le monde. Que moi, j'entends des cavistes aujourd'hui, des amis cavistes, qui cherchent des petits prix et qui se disent, bah aujourd'hui, je peux plus trouver de petits prix sur des vignerons qui travaillent proprement en France, donc je vais être obligé d'importer des vins peut-être d'autres pays pour proposer. Vous imaginez le délire dans lequel on est, hein, de dire je vais faire venir des vins de pays étrangers
de loin.
Qui viennent de loin, qui auront théoriquement une façon de travailler plus propre parce qu'ils seront labellisés bio ou je ne sais quoi, et donc ça rassurera le caviste, et de proposer à des prix plus abordables que ce qu'on produit en France. Moi, mon vœu, effectivement, c'est de dire j'aimerais proposer les vins que je propose aujourd'hui au plus grand nombre et pas seulement à l'élite parisienne d'amateurs qui nous écoutent et dont, enfin, que j'adore, hein, que les choses soient claires, mais j'aimerais qu'on soit capable d'évangéliser un peu plus sur des choses qui sont bonnes, quoi.
D'ailleurs, en parlant des prix des vins, parce que c'est souvent quand même intéressant, le muscadet qu'on est en train de boire coûte 15,90 €. Il a été acheté dans la cave le 22 à Montreuil. Et donc, l'Alsace de Ebinger coûte 18,90 €. Dans cette cave, comme dans d'autres, je me suis amusée à chercher les premiers prix il y a quelques jours sur de la bio, de la biodynamie. Un des premiers prix en biodynamie est à 9,90 €. Autant dire que c'est extrêmement compliqué de pouvoir s'y tenir. Mais il y en a qui le font. Il y a quelques domaines comme ça en France qui travaillent pour avoir des vins bio, biodynamiques qui sont en dessous de 10 €. Je salue ces domaines. J'imagine que c'est très compliqué puisque je sais le coût de produire des vins vivants, d'où cette rareté. Et c'est tout à fait normal d'en trouver peu parce que ça demande beaucoup. Mais en tout cas, là, on goûte ce soir deux vins qui sont en dessous de 20 €. Et je peux vous dire que niveau émotion, Patrice s'est resservi. Nous arrivons vers la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Julie, de nous avoir embarqués avec toi. Voilà, on aurait pu, je pense, parler encore plus longtemps. Je rappelle que Vino Futur est un journal papier dépliant assorti d'une newsletter bien sentie mensuelle. Il coûte 7 €. Il est disponible sur le site de Vino Futur, mais aussi chez des cavistes indépendants. Par exemple, j'ai pu me procurer un exemplaire à la cave BBN d'Olivier Gibon dans le deuxième, que je remercie. Et comme dirait l'artiste, astronome et écrivain Omar Khayyam, il n'est personne qui sache le secret du futur. Ce qu'il faut, c'est du vin, l'amour et le repos à discrétion. Merci Laurent, merci Valérie, merci Patrice et merci Julie. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.
Merci à toi.
Merci Julie, au revoir.
À bientôt.
Merci
au revoir Julie.
love. There's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving. They're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Your hand, darling, it's grand. They just don't understand living for you. It's easy living, it's easy to live when you're in love.